Radio. Campus. Paris.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, c'est Francesca à l'animation, il est 19h01 et vous êtes en direct sur Radio Campus Paris pour l'émission de la matinale de 19h.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Nous sommes le mercredi 22 octobre 2025. Une bonne semaine s'est écoulée depuis le concert de Booba et on n'en a pas parlé. Il faut dire qu'entre l'affaire Sarkozy, le changement de gouvernement en saison 8, le Louvre, la tempête à Hermont, l'actualité a tout balayé. Eh bien, allons-y, parlons-en. Dimanche 12 octobre, j'étais au concert de Booba. Pourquoi un dimanche? Parce qu'à 42 ans, un concert à 18h30, un dimanche, c'était parfait. Ni trop jeune, ni trop vintage, assez en forme pour vibrer sans risquer le lumbago du lendemain et capable de se lever lundi matin. J'ai posté quelques vidéos, j'ai tout reçu, les trop stylés, les « toi au concert de Booba » et même des « tu deviens jeune ou quoi ?» Non, j'aime bien, point. Et j'ai aimé aussi les critiques, spectacle monumental, inédit, scénographie impressionnante, un Booba en majesté, blablabla, blablabla. Et Critique Mag qui rappelle qu'il a vendu 40 000 billets en 5 minutes. Pour un artiste qui ferait n'importe quoi, ça fait quand même beaucoup de monde. Toujours plus, bien sûr, c'est aussi le côté exagéré du personnage. Booba arrive en majesté, porté par une mise en scène millimétrée, des visuels, des flashs, des papapa. Et il manquait plus que le dragon, en fait, qui passe dans la salle et tout. Et lui, en jean, Marcel, seul au centre, dans une arène démesurée. Ce contraste entre la sobriété du look et la grandeur du décor, bah, ça c'était fort. Ce qui m'a frappé, c'est la diversité du public. Toutes les générations, celles d'avant moi, la mienne, celle d'après et celle d'après. Un vrai melting pot rapologique, vous avez vu ça ? La preuve qu'il a traversé le temps. Alors, j'ai envie de dire quand même à ceux qui n'ont pas aimé du coup, alors on ne peut pas aimer le personnage, c'est vrai, c'est punchline provocatrice, un peu misogyne, enfin ça c'était à une époque, je pense que là il a compris, mais on ne peut pas nier son empreinte culturelle. Entre deux provocations, il parle de fidélité, de loyauté, de solitude, de vérité. Souvent de manière brute, c'est vrai, crue, mais sincère et de mieux en mieux, je trouve. Parfois, ça touche plus juste qu'un discours bien pensant. Alors oui, j'assume, j'aime bien Booba. Bon, j'ai le droit d'aimer, n'est-ce pas? Donc j'ai le droit d'aimer Gotham ou Paradis. Voilà. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je voulais quand même en profiter pour mettre un peu de nuance. La musique, c'est une affaire de résonance. Et si on arrêtait de juger le goût des autres, à force de croire qu'il y a des bons ou des mauvais goûts, on oublie que la musique est d'abord ce qui nous parle, ce qui nous touche et parfois nous guérit. Alors, je nous souhaite plus de tolérance et plus d'ouverture. Sommaire de cette matinale de 19h. En première partie, Octobre Rose toujours. À l'interview, ce sera avec Hugo et nous aurons en duplex Caroline Mercier, directrice générale de Rosop. Nous aborderons le risque de précarité qui pèse sur les mamans solo touchées par un cancer. En deuxième partie de cette matinale de 19h, nous serons avec les membres de l'association ATD Quart Monde. Comment certains services publics ou organismes censés aider les personnes en difficulté peuvent parfois aggraver leur situation. Et ce sera mené par Félix et Aude. Et pour terminer, il sera avec nous, Arthur Ravix, sujet imposé ou presque, fan ou pas fan de Booba. En tout cas, ce soir, vous aurez la réponse dans sa chronique. Merci pour votre fidélité. On est en direct jusqu'à 20h sur le 93.9. Restez avec nous pour la matinale.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Tout de suite, l'interview de Hugo. Bonsoir Hugo.
Bonsoir Francesca.
Et c'est donc en duplex avec Caroline Mercier. Bonsoir Caroline.
Bonsoir, bonsoir à vous deux.
Bonsoir Caroline Mercier, vous êtes directrice générale de Rose Up. Caroline Mercier, en cette période d'octobre rose, vous alertez sur une réalité souvent invisible, celle des mamans solo atteintes d'un cancer. Alors pourquoi ce sujet est-il si urgent ?
En fait, chez Rose Up, nous avons une de nos nos activités qui consistent à défendre le droit des femmes touchées par tout type de cancer que nous accompagnons. Et il est vrai que nous avons été alertés dans le cadre de notre magazine, Rose Magazine, et par des femmes que nous accompagnons avec nos près de 3000 adhérentes à l'association et 1500 femmes que nous accompagnons tout au long de l'année sur une situation particulière qui est celle des mamans solo qui se retrouvent atteintes d'un cancer. Le cancer aujourd'hui rajeunit et malheureusement touche des femmes en situation de famille monoparentale. On sait aujourd'hui que 82% des femmes vivent en famille monoparentale avec leurs enfants et on se retrouve donc avec des femmes qui se retrouvent dans cette double situation et sur cette double peine de devoir gérer à la fois une famille monoparentale et se battre contre un cancer.
Quand vous dites aujourd'hui le cancer rajeunit, ça fait longtemps qu'il rajeunit ?
Le cancer rajeunit, notamment sur le cancer du sein, depuis quelques années, oui, il touche aujourd'hui de nombreuses femmes de moins de 50 ans, qui sont du coup des femmes qui ont encore des enfants en bas âge ou adolescents à gérer.
Et en quoi la situation de ces femmes, elle est différente de celle des autres patientes atteintes d'un cancer ?
En fait, il y a un mécanisme qui se met en place quand il y a la situation de famille monoparentale et de cancer, c'est qu'il y a un mécanisme très simple et qui est très très brutal, c'est qu'il y a une absence de filet de sécurité en fait. Quand vous êtes dans un couple, si vous tombez malade, l'autre personne va porter l'effort financier et la logistique. Pour une mère qui est célibataire, on arrive assez rapidement en fait sur un point de rupture. L'arrêt du travail qui va rapidement entraîner une chute des revenus. Les charges, elles vont rester. Et puis pire, elles vont augmenter parce qu'il va falloir payer pour l'aide au quotidien et des tâches ménagères des personnes pour vous accompagner. Il va falloir payer des taxis, par exemple, pour vous rendre au rendez-vous pour vos traitements. Et vous allez aussi devoir faire appel à des nounous ou des gardes d'enfants pendant et après les traitements, parce qu'après les traitements, vous êtes en général très fatigué et qu'on a eu beaucoup de témoignages de mamans qui nous disent que il est très difficile de s'occuper des enfants quand on ne peut pas se lever en fait.
Et c'est pour ça qu'on parle de double peine.
Oui, on parle de double peine parce que on alerte déjà depuis plusieurs années sur une double peine qui concerne les malades du cancer, c'est le reste à charge. C'est-à-dire qu'on est très bien soigné, il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge, mais il y a énormément de choses qui ne le sont pas. Et quand vous venez ajouter sur des familles qui sont déjà en situation de précarisation, hein, puisque en fait, on a aujourd'hui dans les chiffres 34% des familles monoparentales qui sont en situation de précarité. Et quand vous avez 80% des femmes qui sont chefs de famille monoparentales, vous voyez qu'en fait, tout vient s'agréger. Et la problématique, c'est ça, c'est que d'un côté, on accompagne les femmes en situation monoparentale. D'un autre côté, on accompagne les femmes qui sont malades du cancer. Mais quand les deux lignes se recoupent, ça devient rapidement précarisant.
Et est-ce qu'aujourd'hui, il existe un dispositif d'aide spécifique pour elles ?
Alors là, aujourd'hui, ce qui existe pour les familles monoparentales, il y a pas mal de dispositifs qui sont mis en place par les municipalités en expérimentation pour mettre en place des guichets uniques pour les familles monoparentales. Mais pour les familles, les femmes en situation de monoparentalité qui sont touchées par un cancer, non, il n'y a pas de dispositif spécifique.
Et alors comment est-ce que vous expliquez que cette problématique ne soit pas encore reconnue par les pouvoirs publics ?
En fait, le cancer est toujours aujourd'hui vu et perçu comme touchant des personnes de plus de 60-65 ans. Et c'est vrai que le phénomène du rajeunissement du cancer, on commence à en parler. Aujourd'hui, vous pouvez être étudiant avec un cancer, vous pouvez être salarié avec un cancer. Voilà, vous pouvez être en situation de pré-retraite avec un cancer, mais c'est vrai que le lien ne s'est pas encore fait. Et nous l'alerte, on l'a eue avec énormément de témoignages. C'est-à-dire que dans la communauté qu'on a aujourd'hui, sur nos 600 000 lectrices du magazine et sur notre communauté de 70 000 personnes à peu près sur les réseaux sociaux, on a commencé à être alertés, nous, directement, par des femmes qui nous ont dit « Est-ce que vous pouvez nous aider, en fait ?» parce que la vie est compliquée. On a par exemple Françoise qu'on a interviewée dans le dernier magazine qui nous ont dit que la démarche administrative, ça a été un véritable enfer, qu'elle est très organisée, mais que quand elle a dû prendre tout ce sujet en charge pendant son cancer, en plus des enfants, elle s'est retrouvée extrêmement découragée, que ça a été un job à part entière. En fait, on a essayé de comprendre ce qui posait problème, et effectivement, on s'est posé la question de dire quel est le phénomène plus précarisant quand on est en situation motoparentale avec un cancer. Et les témoignages nous ont révélé qu'on a vraiment un risque accru de précarisation parce qu'on a une baisse de revenus, des restes à charge qui sont élevés et que ça peut aussi amener à des renoncements aux soins. On a une surcharge mentale qui est dupliquée parce qu'on s'occupe des enfants. C'est déjà très compliqué quand on est en situation de famille monoparentale, mais quand vous devez rentrer là-dedans, le traitement du cancer, l'ensemble des rendez-vous et tout ce qu'il y a à gérer, notamment sur ce que nous, les femmes, nous ont remonté comme étant une maltraitance, notamment sur la complexité administrative. En fait, rien n'est facilitant. Et tous ces phénomènes bout à bout, c'est vrai qu'on a des mamans qui nous ont alertés très fortement.
Et parce que presque en plus de la prise en charge des soins, il faudrait aussi une prise en charge psychologique, un suivi.
Oui, tout à fait. Mais en fait, la prise en charge psychologique, vous allez vous l'octroyer à partir du moment où vous n'êtes pas en train de vous bagarrer avec l'administration et que vous n'êtes pas en train de compter ce qui vous reste sur votre compte bancaire pour pouvoir aller faire les courses pour nourrir les enfants. Et on a aujourd'hui des mamans qui nous remontent des situations, y compris des femmes qui sont entrées en situation de cancer avec des revenus plutôt corrects, mais tout mis bout à bout fait qu'elles se sont retrouvées dans des situations de précarité qui sont venues assez rapidement, en fait. Et quand vous en êtes à savoir si vous allez pouvoir boucler la fin du mois et nourrir les enfants, en fait, vous n'allez pas voir un psychologue pour vous occuper de vous. Et c'est ce qui nous remonte beaucoup, c'est que les femmes se retrouvent aujourd'hui, de manière générale, les femmes protègent beaucoup leurs proches et leur environnement, elles prennent beaucoup sur elles, mais c'est sûr que là, elles vont encore plus se s'oublier et se concentrer uniquement sur les traitements, mais absolument pas sur tout ce qui va autour et qui pourrait les soulager. Et on sait très bien qu'effectivement, l'accompagnement psychologique et nous, les soins que nous apportons chez Rose Up en soins de support sont aussi très constitutifs du processus de soins et de guérison.
Justement, quel rôle joue Rose Up auprès de ces femmes ?
Alors, nous, Rose Up, en fait, on offre un refuge et un soutien sur plusieurs axes. On leur donne un accès gratuit, justement, dans nos maisons à Paris, à Bordeaux et sur notre maison en ligne, à des soins de support, donc qui ne sont pas des soins de confort. Donc, ça va être des soins encadrés. On va leur proposer, par exemple, des séances de sport adaptées parce qu'il est reconnu que le sport est très important dans le parcours de soins. On va leur permettre d'avoir accès à des cours pour s'alimenter également correctement. Elles vont avoir accès à des ateliers de socio-esthétique pour pouvoir prendre soin d'elles parce que les traitements de cancer ont un impact extrêmement important sur le corps. Elles vont pouvoir choisir leur perruque. On va leur expliquer aussi comment se faire rembourser. Ça fait partie des sujets de reste à charge sur lesquels on intervient aujourd'hui auprès des pouvoirs publics sur la loi cancer du sein. Et en fait, on veut leur offrir un cocon dans ces espaces entre la maison et l'hôpital pour qu'elles puissent venir s'y ressourcer, rencontrer des femmes qui sont dans la même situation, pouvoir échanger et que ce soit un lieu de repos et de réconfort. Et ça, aujourd'hui, on arrive à le proposer à 1500 femmes sur nos trois maisons chaque année.
Vous leur offrez finalement une seconde maison. Quand vous dites sport adapté, vous parlez de quel sport à peu près ?
Alors, nous, on a plusieurs types de sports. On a de la danse, on a des cours de yoga, donc qui sont des cours qui sont faits par des professeurs qui sont labellisés en sport adapté. On a une équipe d'aviron aussi. On a un partenariat avec la Fédération d'aviron à Paris et à Bordeaux qui nous mettent à disposition des rameurs. Et en fait, les femmes se sont mises à faire du rameur en salle parce que c'est reconnu comme étant intéressant dans le parcours. Et puis, comme elles se sont mises à plusieurs à faire du rameur, en fait, avec la Fédération d'Aviron, elles se sont lancées à monter leur propre équipe.
Alors, on va faire une petite pause musicale et on revient juste après. Merci. Donc, nous venons d'écouter Luge avec le titre « Yeah » et tout de suite, on reprend l'interview avec Hugo.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Caroline Mercier, nous reprenons avec vous. Vous êtes directrice générale de Rose Up, je le rappelle. On parle aujourd'hui on parle des mamans solo touchées par le cancer du sein et touchées par un cancer en général. Alors, quelles mesures ou réformes vous semblent aujourd'hui prioritaires pour mieux les accompagner ?
La mesure d'urgence, en fait, ce serait de mettre en place des guichets d'aide unique et personnalisée qui seraient pilotés par des travailleurs sociaux. On sait qu'aujourd'hui, dans la loi cancer, il y a la possibilité d'avoir accès à une assistante sociale après l'annonce du cancer pour pouvoir accompagner les personnes diagnostiquées dans leur parcours. Mais ce que nous remontent les femmes que nous accompagnons, c'est que ce rendez-vous se fait assez rapidement après l'annonce, une annonce qui en règle générale dure une quinzaine de minutes. Vous rentrez dans un processus de choc de l'annonce de la maladie et puis de tout ce qui va s'en suivre dans l'organisation du quotidien. Et donc, ce rendez-vous est parfois un peu tôt. Et puis, on a aussi d'autres femmes qui nous ont relaté ne pas y être allées parce qu'elles ne pensaient pas en avoir besoin. Et donc, ce guichet unique d'aide personnalisée pourrait peut-être être couplé à ce qui se fait aujourd'hui dans les municipalités qui ouvrent des guichets pour les familles monoparentales à l'échelle de certaines villes en France. Nous, on a pu avoir un échange avec l'association des familles monoparentales et je remercie Monia qui nous a beaucoup aussi relayé d'informations sur ce qu'ils constataient, eux, auprès des personnes qu'ils accompagnaient et qui a diffusé notre consultation en cours. Et l'idée, ce serait vraiment ça, c'est un guichet qui prendrait en charge toutes les démarches administratives, qui activerait automatiquement des aides, les aides à la parentalité, les gardes, les aides à domicile, dès la pose du diagnostic. Il faudrait qu'on arrive à automatiser une aide en fait, pour décharger ces femmes parce qu'on a énormément de retours sur la charge mentale et le fait que ça les oblige, voilà, ça déstabilise complètement le foyer. En fait.
Parce que si je comprends bien, les aides qu'ils remboursent, elles sont majoritairement consacrées aux personnes plus âgées. C'est ça ?
Non, en fait, les aides aujourd'hui, vous pouvez activer beaucoup de dispositifs d'aide divers et variés, mais en fait, vous devez les activer vous-même. C'est-à-dire que si vous voulez mettre en place votre garantie, par exemple, de suspension de prêt en cas de problème de santé auprès de votre établissement bancaire ou établissement de garantie, vous allez devoir remplir des dossiers dont on nous dit qu'ils sont colossaux à remplir. Et puis, vous allez devoir remplir des dossiers de remboursement pour votre perruque. Et puis, vous allez devoir saisir une aide sociale spécifique pour la garde d'enfants. Et puis, vous allez devoir saisir une autre aide pour l'aide à domicile. Et en fait, les femmes se retrouvent en face de dizaines de guichets et elles doivent seules prendre en charge la mise en œuvre de l'ensemble de ces dossiers et malheureusement, rien n'est facilitant, y compris quand on a un cancer. Donc c'est ça qui est très compliqué aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a des exemples de bonnes pratiques en France ou ailleurs dont on pourrait s'inspirer ?
De bonnes pratiques sur ces sujets ?
Sur ces sujets, sur l'aide justement à remplir ces dossiers d'aide ou sur les facilitations à gérer ces aides en ayant la maladie ?
Bah, en fait, en ayant la maladie, aujourd'hui, on a assez peu d'exemples en dehors du secteur associatif. Nous sommes de nombreuses associations aujourd'hui sur l'accompagnement cancer en France. Et c'est vrai que le secteur associatif prend beaucoup en charge l'aide sur voilà, ces sujets. Les indemnités journalières, les rapports avec la sécurité sociale, etc. Donc c'est vrai que le milieu associatif est très engagé là-dessus, ça fait vraiment partie de l'ADN des assos d'accompagner. Maintenant, effectivement, il y a des CCAS dans l'ensemble des municipalités, les centres d'action sociale, mais le sujet cancer n'est pas un sujet, entre guillemets, pris en compte de manière prioritaire. Donc en fait, si vous n'êtes pas accompagné par une association sur ce sujet cancer ou sur une association, je parlais de l'association des familles monoparentales, voilà, qui va prendre en charge, en fait, dans les guichets aujourd'hui d'administration, il n'y a rien de spécifique.
Et est-ce que les entreprises ou les employeurs jouent un rôle d'accompagnement ou est-ce que c'est encore un tabou aujourd'hui ?
Alors, les entreprises, nous, on les trouve très actives et très engagées sur ce sujet. Alors, deux choses, quand vous êtes en arrêt pour traitement cancer, vous n'êtes plus en relation avec votre employeur. Donc, l'employeur, là, voilà, ne peut pas intervenir directement. Mais on a énormément, effectivement, d'entreprises. Hein, alors, plutôt grandes entreprises, et c'est un travail que nous, on aimerait faire avec les entreprises de taille intermédiaire, de pouvoir aussi les accompagner sur ce sujet, mais on a beaucoup d'entreprises qui, dès l'annonce, en fait, quand elle est faite, hein, d'un cancer, vont se mettre à disposition avec leurs services, notamment RH, très impliqués, pour aider et accompagner le ou la salariée avant son arrêt et surtout au retour, parce qu'il y a aussi un sujet très important qui est le sujet du retour à l'emploi.
Et est-ce que les mutuelles, est-ce que le système de santé prend en compte leur situation familiale dans le parcours de soins ? Est-ce qu'il y en a qui le font déjà ou c'est pas encore mis en place ?
Non, pas à notre connaissance. Pas à notre connaissance, non.
Est-ce que c'est une piste qu'on peut aussi exploiter
Complètement, complètement. Ouais. En fait, l'idée, ce n'est pas de demander à l'État de pourvoir à tout et de tout prendre en charge. On a aussi énormément d'intervenants qui peuvent être facilitants. Enfin, nous, par exemple, on a chez Rose Up porté pendant 10 ans le plaidoyer sur le droit à l'oubli pour ramener la possibilité d'emprunt bancaire après un cancer qui était avant à 10 ans, aujourd'hui à 5 ans. Et on a aujourd'hui, par exemple, des établissements bancaires qui vont plus loin que la loi qui a été posée et qui fait un droit à l'oubli complet. Les mutuelles peuvent être des acteurs, les assurances peuvent être des acteurs. Et en fait, l'idée, je pense que ce serait, et c'est tout l'objet aujourd'hui de la consultation qu'on lance, pour avoir des retours très concrets de ce qui pose problème et de voir quel type de partenaire on peut mettre autour de la table et avec qui on peut discuter sur ces sujets, parce que tout le monde a un rôle à jouer en réalité.
Parce que qu'est-ce qui manque le plus à ces femmes? Le soutien financier, logistique ou moral? Ou les trois?
Je dirais le soutien, ça, le soutien en règle générale, les femmes vont l'avoir. Il y a énormément de sororité qui se met en place. Je vous dis, il y a le milieu associatif. Donc, si ces femmes ont la chance d'avoir cet entourage, elles peuvent l'avoir, même si le cancer peut avoir aussi cette propension à mettre les femmes en situation d'isolement. Là, aujourd'hui, ce qui ressort fortement, c'est la surcharge mentale. Quand vous êtes une maman et que vous n'êtes plus en capacité de vous occuper de vos enfants parce que vous revenez de chimio et que pendant 2 jours, vous ne pouvez plus bouger, mais qu'en même temps, vous êtes en... En fait, on a beaucoup de témoignages. Les femmes, c'est cornélien de devoir à la fois se battre contre le cancer et en fait le cancer vous empêche de vous occuper de vos enfants. Si vous rajoutez à ça les problématiques financières qui surviennent au bout d'un moment et la complexité administrative et l'ensemble de la lourdeur du quotidien, en fait, la surcharge mentale, elle est colossale en fait.
Et est-ce que la société en général comprend la charge invisible qui pèse sur ces mamans?
Je n'en suis pas forcément convaincue. On voit que la surcharge mentale, qui est un vrai facteur de stress chronique, ça entrave vraiment la guérison. Quand on passe en mode survie et qu'on se demande si on a les médicaments, mais en même temps si on a payé la cantine et quand est-ce que j'ai mon prochain rendez-vous, etc., ça, il y a vraiment une pression qui se met en place et ça empêche vraiment le corps de se concentrer sur la lutte contre le cancer. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a aujourd'hui des femmes qui s'épuisent psychologiquement et avec des témoignages de certaines d'entre elles qui disent qu'elles ont même retardé des soins parce qu'elles n'ont pas trouvé de solution de garde. Et le système actuel, en fait, est très porté sur la guérison, sur le soin, sur les traitements. Et ça commence à venir, donc ça c'est plutôt bien, notamment sur la partie soins de support. Il y a encore beaucoup à faire, en tout cas, sur tout ce qui va entourer la maladie.
Et si vous aviez un message adressé directement au gouvernement, lequel serait-il?
Ce serait vraiment un appel à une prise de conscience. En fait, on ne peut pas demander à une femme de se battre contre le cancer tout en la laissant se battre toute seule contre l'ensemble des difficultés qu'elle va avoir et la précarité dans laquelle ça la met. Donc on a vraiment un enjeu qui dépasse la santé, c'est vraiment une question de justice sociale aujourd'hui pour nous, et donc pour les pouvoirs publics, il faut que ces mères et leurs enfants soient vraiment pris en compte et pris en charge. Et il faut qu'on fasse tous ensemble en sorte que le fardeau invisible, ça devienne une vraie priorité visible.
Il faut qu'on fasse en sorte que tout bouge, que finalement chaque acteur y mette du soin. Merci d'avoir été avec nous, Caroline Mercier. On rappelle que nous parlions du risque de précarité qui pèse sur les mamans solo touchées par un cancer, car aujourd'hui aucun dispositif d'aide ne prend en compte la double problématique. Merci beaucoup, c'est important d'en parler. Et en plus,
merci,
c'est Octobre Rose.
Tout à fait.
Merci
beaucoup. Merci d'avoir été avec nous.
Je vous en prie, merci.
Alors, nous allons faire une petite pause musicale. On va écouter The Tight avec le titre Dunkerque. Il est 19h30 et vous êtes sur Radio Campus Paris.
I don't care. Bretagne. I don't care about breaking news, the kind of news that blow my mind. I don't care about the press that mislead us. I don't care about the meme, the mainstream thinking. Let's go! By the way, I got to tell you that I care, but I don't wanna lie, I don't wanna die. I don't care. I don't need you. I don't care. I don't need you. I don't care about your friends, the things that frame your world. I don't care about your songs, the songs made by AI. I don't care about your books, the books that piss your face. I don't care about the meme, the mainstream thinking. Let's go!
D'écouter The Fact avec le titre Don't Care. Vous êtes sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Tout de suite, pour la deuxième partie de la matinale de 19h, nous accueillons les membres de l'association ATD Quart Monde pour parler de maltraitance institutionnelle. Nous sommes avec Manuela et Nassima. Bonsoir.
Bonsoir.
Cette interview est menée par Félix et Aude. Bonsoir Félix, bonsoir Aude.
Bonsoir. Alors, à l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère qui s'est tenue le 17 octobre dernier, ATD Quart Monde a placé la maltraitance institutionnelle au cœur de ses revendications. C'est une violence de la part des institutions, souvent invisible, qui peut être subie par l'ensemble de la population, mais plus particulièrement par les personnes en situation de pauvreté. Déjà en grande difficulté, elles se retrouvent donc face à un système qui les y maintient, voire aggrave leur cas. Et ATD Quart Monde en a fait une de ses principales luttes. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement et nous présenter aussi ATD Quart Monde ainsi que les missions qu'elle s'est fixées.
Tu veux y aller, Manuela ?
Oui, bah, je m'appelle Manuela, je connais ATD Quart Monde depuis l'année 2005. Je trouve que c'est une association superbe parce qu'elle aide vraiment les gens qui sont comme moi dans la misère, qui ont connu aussi tout ça depuis longtemps. Et du coup, grâce à eux, ça nous aide à sortir la tête hors de l'eau et à garder notre dignité et à retrouver confiance en nous.
Trop bien, merci Manuela. Moi c'est Nassima, j'ai 25 ans et moi je travaille dans l'équipe jeunesse nationale d'ATD Quart Monde. Je peux présenter ATD Quart Monde d'une autre façon ?
Bien sûr.
À TD Quart-Monde, c'est agir tous pour la dignité Quart-Monde. Emmanuela l'a très bien dit, c'est le cœur de notre combat que de se battre pour la dignité de toutes et tous. Et on part du principe que c'est seulement en partant des plus exclus, de ceux qu'on entend le moins, de ceux qui vivent les plus grandes injustices, qu'on pourra bâtir une société juste pour tout le monde. En partant, voilà, de ceux qu'on entend le moins. Et ça se traduit par trois modes d'action principales. Le plaidoyer, donc agir auprès des institutions pour faire évoluer les lois et les pratiques en associant les personnes qui affrontent la pauvreté. On s'appuie toujours dans nos plaidoyers sur la parole des premiers concernés. Et voilà, c'est comme ça qu'on a obtenu le RMI, qui est devenu le RSA aujourd'hui, la CMU, et d'autres droits pour lesquels on s'est battu. On agit aussi sur le terrain avec les personnes qui vivent la plus grande pauvreté. Et on se bat pour que leurs droits soient respectés. On mène des projets expérimentaux, mais je vais peut-être pas faire une trop longue présentation. Et notre dernier mode d'action, c'est auprès de l'opinion publique, en parlant dans des espaces comme celui-ci, pour changer les idées reçues que les personnes ont et que, enfin voilà, qui traversent malheureusement la société sur les personnes qui vivent la pauvreté.
Ouais, bon, on reviendra notamment sur la maltraitance institutionnelle. C'est les solutions que vous souhaitez apporter aussi.
Et du coup, pourquoi avoir fait le choix de vous appeler ATD Quart-Monde ?
Alors, ATD Quart-Monde, peut-être, voilà, ATD, agir tous pour la dignité. Ça, c'est venu assez vite. Le mot Quart-Monde, Manuela, toi, tu sais le présenter ?
Ben en fait, l'idée, c'est venu d'un prêtre d'origine polonaise qui a monté le ATD Quart-Monde, qui a fondé ATD Quart-Monde et qui a décidé au début, c'était agir pour toute détresse, et quelques années plus tard, on a voté tous pour changer un tout petit peu ça, parce que on n'agit pas pour que les gens gardent leur détresse, on agit pour que les gens, pour que nous-mêmes, on retrouve notre dignité, qu'on garde cette dignité qui s'est enfouie au fond de nous parce que des gens malveillants n'ont pas voulu faire attention à nous. Et donc maintenant, c'est agir tous pour la dignité, parce que on pense que c'est très important pour les gens que je représente ce soir. Pour nous, c'est hyper important qu'on soit plus dans l'ombre, qu'on soit visible, et puis qu'on nous regarde pas de travers, mais qu'on nous regarde avec un vrai regard, qu'on nous fixe vraiment face à face et qu'on dit tiens, elle est bien et tout. Enfin voilà quoi, parce qu'on n'est pas des moins que rien, on est des gens avec nos valeurs à nous, et si on arrive à tomber sur des gens qui reconnaissent nos valeurs, nous, ça nous, voilà, au plus profond de nous, ça nous émeut, et puis on se dit tiens, maintenant on est écouté, on est bien, et tant mieux. Moi, ça fait depuis 2005 que je suis dedans. Quand j'ai entendu l'histoire du père Joseph, comment il est venu ici en France et tout, la misère qu'il a vécue, je me suis reconnue un petit peu dans ça, et j'ai dit ce jour-là, je ne quitte plus ATD Quart-Monde, pour moi vous êtes ma famille.
Très bien, et justement, à quel point c'est important d'utiliser un vocabulaire adéquat quand on parle de précarité ?
Tu veux y aller ou...
Vas-y.
Je me permets juste une petite précision. Vous avez inventé aussi le mot de pauvrophobie.
Ouais.
Donc c'est essayer de créer un champ lexical, un vocabulaire qui déstigmatise et permet d'avoir des mots adaptés.
Ouais, non, mais je pense que ce à quoi on est très attaché à TD Quart-Monde, c'est de cesser de parler à la place des premiers concernés. Il y a une phrase forte qui me touche beaucoup à TD, c'est voilà, venant des personnes qui vivent la pauvreté, tout ce qui se fait pour nous, sans nous, se fait contre nous. Et trop souvent, aujourd'hui, les décisions sont prises sans consulter celles qui vivent la plus grande misère. Et ça, c'est profondément injuste. Et donc, je pense que si on doit être attaché au mot, bon, le mot pauvrophobie, on y a réfléchi, pour le coup, c'est pas venu des personnes les plus pauvres, mais si on veut parler de vocabulaire, c'est de chercher à ce que les mots des premiers concernés soient entendus.
Oui, et puis en même temps, moi je pense que c'est important. Le père Joseph disait toujours qu'il était là dans le camp de Noisy-le-Grand pour faire avec nous, enfin moi j'ai pas connu le camp, mais pour faire avec nous. Et une phrase qui est hyper forte, et je l'écoute sous le vent à chaque 17 octobre sur YouTube, je réécoute son discours, et il dit « Je témoigne de vous ». Je ne témoigne pas pour vous, mais je témoigne de vous. Et ça, c'est une phrase qui est hyper forte et qui me parle et qui parle à beaucoup d'entre nous, d'ailleurs. Et parce que les gens du mouvement qui sont là, qui nous soutiennent, Eh ben, ces gens-là, ils savent vraiment nous écouter. Et quand on veut faire quelque chose, même si on ne l'a jamais fait, ben, ils sont là pour nous aider à apprendre à faire nous-mêmes les choses en étant bien accompagnés. Ça, c'est hyper important.
Et est-ce qu'on peut revenir du coup peut-être aux bases? Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est la maltraitance institutionnelle?
Moi, je trouve que la maltraitance institutionnelle, c'est quand on a affaire à... par exemple, il y a quelques années de cela, j'étais encore avec mes enfants et j'avais des soucis financiers à ce moment-là. Et j'avais été rencontrer un assistant social, un assistant social qui m'a pas très bien reçu. Je me suis pas sentie vraiment à l'aise avec lui. Je suis allée pour lui demander une aide soit financière ou soit avec des tickets, je dirais pas des tickets des restaurants, mais des bons alimentaires qu'on accorde, que ces personnes-là nous accordent pour pouvoir nourrir nos enfants. Et cette personne avait mon dossier devant lui et il m'a regardé d'un air dédaigneux, vraiment de travers, en me disant « on vous a beaucoup aidé et maintenant on arrête de le faire parce que l'aide qu'on vous donne, en fait, c'est pas vraiment pour nourrir vos enfants, c'est vraiment pour aller au bistrot avec ». Là, je suis rentrée un peu dans une colère monstre, mais heureusement, ce jour-là, je n'ai pas été toute seule parce que, me connaissant comme je me connais, ils m'ont envoyé quelqu'un de la mairie qui m'a aidée. Et ce monsieur m'a dit gentiment, « Madame, allez prendre un peu l'air dehors, je m'occupe de cette situation. » Et moi, je trouve que, pour moi, c'est de la maltraitance institutionnelle. Parce que moi, ce que je voyais, c'était nourrir mes enfants. C'était pas, je ne demandais pas l'aumône. Je ne fraudais pas non plus pour ça et vraiment je ne demandais pas l'aumône, je demandais juste qu'on m'aide pour un petit morceau de pain, voilà, juste ça pour nourrir mes enfants.
Justement, je reviendrai après sur sur l'impact que ça peut avoir, cette maltraitance institutionnelle. Vous pourrez nous dire ce que vous, un peu plus en détail, ce que vous avez ressenti notamment. Du coup, il y a un rapport qui s'appelle Stop à la maltraitance institutionnelle que vous avez publié en septembre 2024. Donc, juste qu'on revienne sur ces institutions, c'est quoi ces institutions dont on parle? C'est un terme qui regroupe beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est ces institutions? Est-ce que vous avez des exemples concrets?
Oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est vrai. Enfin, maltraitance institutionnelle, c'est un peu deux gros mots. C'est des mots difficiles. Mais voilà, les institutions, c'est des lieux. C'est France Travail, c'est la CAF, c'est l'école, c'est l'hôpital, c'est la justice. C'est tous ces espaces qui sont censés nous aider. C'est nos services publics, quelque part. Et qui sont censés aider aussi les personnes qui sont plus en difficulté, mais qui, par leur fonctionnement, aujourd'hui, leur organisation, le manque de moyens qui leur sont alloués, finissent par maltraiter les personnes qu'elles sont censées soutenir. Mais donc oui, ce rapport, on l'a publié l'année dernière, et en fait, c'est le fruit d'un long travail. En 2019, on a d'abord publié une recherche qui a été menée en croisement des savoirs dans 6 pays du monde, une recherche internationale en partenariat avec l'Université d'Oxford, qui visait à révéler les dimensions cachées de la pauvreté. En fait, quand on parle de pauvreté, souvent on pense à l'aspect monétaire, on pense aux privations. Et ce que cette étude, elle cherchait à montrer, c'est quelque chose qui manquait dans le monde académique, c'est que la pauvreté, c'est pas que manquer d'argent. La pauvreté, elle est multidimensionnelle. C'est aussi vivre l'isolement. C'est vivre la maltraitance sociale. C'est ressentir des peurs, des souffrances. C'est voir sa santé se dégrader. Et donc, le premier point de départ, c'était cette recherche où la maltraitance institutionnelle apparaissait comme l'une des dimensions de la pauvreté. Et ensuite, sur le terrain, dans les universités populaires, c'est un lieu qui est très cher à TD Quart-Monde, qui permet aux personnes qui ont l'expérience de la vie difficile de s'exprimer, d'échanger avec d'autres qui ont d'autres expériences de vie et d'oser prendre la parole aussi. Et donc, le rapport aux institutions et la violence que ces personnes subissaient apparaissait beaucoup dans les discussions. Et c'est pour ça que le mouvement, en 2023, déjà, s'est dit qu'on devait en faire une priorité. Et pour en faire une priorité, il fallait qu'on bosse, il fallait qu'on réunisse des personnes qui ont l'expérience vécue de la pauvreté, des professionnels du secteur social, des institutionnels, pour pouvoir publier un rapport solide et pour pouvoir le défendre, comme je vous l'ai dit au début, voilà, auprès des institutions, auprès du public. Voilà.
Et, pardon, vous vouliez ajouter quelque chose, Manuela ?
Oui, je trouve qu'elle a, elle a tout à fait raison quand elle parle de ça, parce que des fois, quand on arrive aussi pour faire une demande d'emploi, il faut remplir un dossier et on essaye de demander à quelqu'un de nous aider, parce qu'avec Internet aujourd'hui, bah, y a beaucoup d'entre nous qui ne connaissent pas du tout Internet, qui ne savent pas se servir d'un ordinateur, et pour nous c'est difficile si on demande à quelqu'un et que la personne nous dit j'ai pas le temps pour ça, je suis désolée, je peux pas vous recevoir. Il y a quand même une manière de le dire aux gens, de faire comprendre aux gens, parce que on se dit peut-être qu'on est invisible, qu'elle nous voit pas, et puis voilà quoi. Donc je pense que oui.
Et justement, c'est cette surnumérisation des systèmes pour accéder à toutes ces aides, c'est une des causes que vous pointez qui contribue à cette maltraitance institutionnelle. Mmh. Est-ce que vous pouvez revenir dessus et sur les autres causes que vous avez pu identifier de cette maltraitance, qui provoque cette maltraitance ?
Oui, la numérisation, bien sûr, ça fait partie des choses qui éloignent les personnes de leurs droits. Nous, ce pour quoi on milite, c'est qu'il y ait plus d'humains dans les services publics, que les personnes puissent être accompagnées dignement, dans leur globalité, qu'on comprenne que leur vie, c'est pas des petits morceaux, mais quelque chose d'entier. Mais donc, si on revient, oui, sur les causes, c'est le délitement de nos institutions, c'est les moyens qui sont alloués, qui... Enfin, c'est... Comment dire
Il y a un manque de financement, notamment,
oui,
par exemple,
ça,
de toutes ces institutions, de personnel, de financement, qui, du coup...
Résulte à ces phénomènes-là, oui, absolument.
Et les personnes, notamment les personnes qui travaillent dans ces institutions, deviennent aussi des victimes, vous en parlez, de ce système-là. C'est pas seulement les personnes en situation de précarité, c'est aussi ces personnes-là qui sont censées leur apporter de l'aide.
Absolument, c'est ça, oui.
C'est peut-être aussi un manque de formation. Peut-être.
Oui, non mais vous citez, c'est très bien. Aussi, oui, tous ces éléments qui participent à ce système entier, en fait, qui fait souffrir à la fois les personnes qui travaillent dans ces institutions et les personnes qui sont censées en bénéficier.
Et est-ce qu'on peut chiffrer justement ce phénomène de maltraitance institutionnelle ? On peut se rendre compte à quel point il est répandu en France ?
En fait, c'est très difficile à chiffrer. On entend les cris qui viennent des personnes qui travaillent dans ces institutions et puis nos cris à nous aussi. Mais c'est pour ça qu'on était attaché à ce que ce rapport soit travaillé avec des personnes en situation de pauvreté, des professionnels, des institutionnels, et à rapporter de la parole à ce que... Parce qu'en fait, l'expérience de la maltraitance institutionnelle, oui, elle est vraiment difficile à chiffrer, mais par contre, elle peut être racontée. Et c'est en collectant tous ces témoignages qu'on comprend à quel point est-ce qu'elle est systémique et à quel point est-ce qu'elle touche un grand nombre de personnes.
Et du coup, on a pu le voir, donc les adultes ne sont pas les seuls qui sont concernés face à cette maltraitance institutionnelle. Il y a aussi les enfants, donc on pense souvent à l'aide sociale à l'enfance. Donc concrètement, quelles formes de maltraitance institutionnelle peuvent subir les enfants placés ?
Ouais. Oui, donc moi je travaille avec les jeunes à TD Quart-Monde et on a aussi longuement réfléchi à ce sujet. Je vais vous juste citer leurs paroles, ce sera le plus simple. La maltraitance institutionnelle, c'est aussi quand des enfants placés vivent à l'hôtel parce qu'il n'y a pas assez de place dans les foyers. Ils sont censés être protégés, c'est la protection de l'enfance. Et ils sont laissés tout seuls dans un hôtel, ils ont juste un toit. C'est aussi la pression au niveau de la préfecture. Quand t'as pas les papiers, tu peux pas avoir un logement ou un travail. Tu demandes à avoir un rendez-vous à la préfecture, tu peux avoir 4-6 mois sans réponse. Alors que tu peux perdre ton travail parce que tu as pas le rendez-vous. C'est de la pression pour moi. Je peux citer un dernier jeune ?
Bien sûr.
Donc c'est une jeune qui nous parle du contrat jeune majeur qui permet aux jeunes suivis par l'aide sociale à l'enfance d'avoir un accompagnement jusqu'à leurs 21 ans. Elle nous dit « Si tu as le projet, je veux aller faire le tour du monde dans 3 ans, ils vont te dire « Ok, mais du coup on arrête ton contrat ». Si je te dis je fais un CAP, il faut un truc qui est rapide et efficace et qui te permet de dégager rapidement. On doit avoir un projet réalisable tout de suite. Tu veux faire médecine, 12 ans d'études, c'est mort, t'es pas au foyer. Déjà, ils n'ont pas les moyens. En général, tu finis dans des trucs vite faits. Il y a peu de jeunes de foyer qui vont faire le bac ou qui vont aller à l'université ou je sais pas quoi. On te demande d'avoir le CAP, le BEP. T'as 18 ans, déjà tu commences à aller travailler, même si t'as pas envie, et c'est pas ton projet parce que t'as envie de faire autre chose derrière. » faut rentrer de l'argent, il faut que tu commences à te dire « demain, je vais payer mon logement ». Quand tu es en contrat jeune majeur, tu dois commencer à payer tes factures. Tu peux pas mettre de côté. Ça veut dire que c'est pas comme tu es dans ta famille où tu peux prendre ton temps. Tu peux mettre de côté pour le permis, etc. Tu peux réfléchir, je fais un CAP, puis demain, si ça me plaît pas, je vais chercher une autre formation. Non, c'est pas ça. Si tu fais ça dans le cadre de ton contrat, bah, on te fout dehors, tout simplement.
Pour terminer, est-ce que vous pourriez donner qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, à notre échelle, des gens qui ne sont pas forcément engagés en association, qui pourraient, au quotidien, lutter contre cette maltraitance? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, nous?
J'aurais aimé que Manuela puisse partager une situation positive, mais je ne sais pas si on a le temps.
Si, si, allez-y.
Eh ben, c'est-à-dire qu'une année, moi, j'avais eu un problème, j'avais des problèmes dans mon couple, et j'avais du mal à m'occuper de mes enfants et tout. J'ai tout de suite demandé de l'aide à une assistante sociale à ce moment-là, qui a été vraiment charmante, vraiment adorable avec moi. Et j'avais vraiment pas envie qu'on fasse placer mes enfants, parce que déjà tout bébé, quand ils sont nés, j'ai déjà les deux premiers qui ont été vraiment dans une pouponnière, et ça m'a causé une dépression. Et du coup, cette personne m'a écoutée et elle m'a dit, on va faire un dossier, on va faire ce qu'on appelle une enquête sociale et tout. On a fait l'enquête sociale. Et maintenant, ce qu'on fait maintenant, ce qu'on essaye de faire pour éviter de séparer les enfants et les parents, on m'a octroyé un éducateur qui a été vraiment génial, qui m'a retrouvé ma place de maman, qui a fait en sorte que mes enfants retrouvent aussi leur place avec moi et leur papa. Et nous ont appris à dialoguer ensemble. Et normalement, il aurait dû nous suivre un an. Il nous a suivis pendant 3 ans. Parce que c'est jamais les mêmes, en principe, à chaque fois qu'on passe devant le juge. C'est jamais les mêmes. Et en fait, cette personne m'a vraiment aidée à retrouver ma place de maman. Et de temps en temps, il faut savoir le dire quand il y a du positif, parce que j'ai vraiment été très heureuse. Et quand ça s'est arrêté, ça m'a fait un coup. Et les enfants, ben, quand on a été voir l'éducateur au CCAS, ils ont fait des dessins et il leur dit, il s'appelait Philippe, ce monsieur, et il dit, Philippe, merci parce que tu nous as aidé à rester avec maman. Et pardon, je suis un peu émue. Et du coup, aujourd'hui, je me dis que il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif. Mais aujourd'hui, j'ai envie de rajouter aussi, parce que je connais un ami qui travaille à France Travail. Et des fois, il me dit, nous, on a envie de donner une chance aux gens, mais nous, on a un quota de 100 personnes. Alors comment, avec un quota de 100 personnes, comment peux-tu aider vraiment les gens correctement? Comment être nous? Comment on peut faire, nous, pour être présents pour eux? C'est impossible. Ça fait partie de la maltraitance institutionnelle, même pour eux, comme vous disiez tout à l'heure, entre votre échange avec Nassima, qui vous expliquait ça. Je voulais rebondir un peu sur ce truc aussi. Donc, parce que pour moi, je trouve que c'est important aussi de le dire, parce que il est jeune, ce monsieur, il a vraiment du mal, quoi. Et je lui ai dit, je vais prendre ton exemple sans dire ton nom, mais voilà, je vais prendre ton exemple. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Comme vous dites, c'est important de le dire. Merci beaucoup, c'était l'association ATD Carmonde. Merci Manuela, merci Nassima. Nous allons nous retrouver après la petite courte pause, de musicale. On écoute 937 Raïma avec le titre How You Feel.
Thank you.
Nous venons donc d'écouter 937 Rhyme avec le titre How You Feel. Vous êtes sur Radio Campus Paris. Il est 19h55. Tout de suite, la chronique.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
La chronique, c'est avec Arthur, avec son titre imposé, fan ou pas fan de Booba. Ce soir, il va parler du Duc. Bonsoir, Arthur.
Bonsoir.
Alors,
mesdames, messieurs, nous sommes le 22 octobre 2025. Et alors qu'en deux semaines, même pas, on a appris que le Louvre était moins sécurisé que le rayon alcool d'un Carrefour City, que la durée d'un mandat de Premier ministre était plus ou moins l'équivalent d'un stage en entreprise en troisième, et que le prochain concert de Carla Bruni se déroulerait au Parloir de la Santé, rien de tout ça n'a réussi à éclipser l'événement le plus important de ces deux dernières semaines, puisque vendredi 10 octobre 2025, c'était le concert de Booba à la Défense Arena. Dans la plus grande salle d'Europe, Booba, le DUC, le Duc de Boulogne, a effectué le premier des trois concerts qu'il avait annoncé pour ce week-end. Les trois derniers concerts de sa carrière, car il l'a dit. Trois concerts et ensuite je m'en vais. Trois concerts pour l'histoire. Trois concerts pour l'éternité. Trois concerts pour la postérité. Est-ce que j'en fais trop ? Peut-être. Il est 20h à la Défense. On est 45 000 personnes prêtes à exploser à la vue de l'homme qui a fait du port de Jean Taïbas une institution. 45 000 personnes qui veulent faire de la violence un moment d'union. 45 000 personnes qui n'ont plus de gouvernement, c'est important de le préciser, on n'a plus rien à perdre à ce moment-là. 45 000 personnes de tous les genres, de tous les âges, de toutes les catégories socio-professionnelles. Et là, les lumières s'éteignent. Un seul spot subsiste au milieu de la scène. Et après quelques secondes, une plateforme descend depuis le plafond de la salle et apparaît alors B2OBA, Booba, en tenue de viking, un projecteur sur lui et de la fumée tout autour. Le gars descend du ciel pour venir à nous. Et c'est là que je me suis dit qu'en France, on est quand même très mauvais pour annoncer les nouveaux premiers ministres. Parce que le cornu en peau de bête qui descend du ciel, on serait toujours enlété de la même manière, mais putain, ça aurait de la gueule. Enfin, vraiment, brûlez mes impôts pour ça, je vous en supplie. L'Accor Arena explose et Booba commence cet immense show à l'intérieur duquel il va performer pendant 2h30. 2h30 de rap pur et dur. 2h30 où tous mes principes féministes volent en éclats. 2h30 à insulter des mères de famille qui n'ont rien demandé à personne. 2h30 où j'ai pris mes convictions et que je les ai piétinées comme un clébard. Et d'ailleurs, pendant le concert, je me suis posé la question. Comment se fait-il qu'on soit autant à approuver des propos pareils ? Comment se fait-il que lorsque Booba ait chanté « Vroom vroom, je fais des roues arrière dans le cul de ta grand-mère », on ait tous chanté en chœur avec lui ? Est-ce que c'est juste parce que ça sonne bien ? Est-ce que c'est parce qu'on reconnaît que l'utilisation d'un scooter dans les entrailles d'une grand-mère est une activité divertissante un dimanche après-midi ? Pourquoi ? Et là, alors que j'étais en plein questionnement, j'étais en introspection, au milieu de vapeurs de cannabis et de cigarettes électroniques goût fraise, pomme, menthe, Booba a interprété le morceau intitulé « Au bout des rêves », suivi par la salle tout entière. Une chanson dans laquelle il dit « Appeler au secours n'est pas mon genre, ça va sans dire. J'ai toujours osé, plutôt crever que t'as fait à l'usine. Moi, je veux devenir ce que j'aurais dû être. Votre système, je n'y crois pas. Non, moi, je ne m'y vois pas. » Et c'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris ce qui nous parlait à toutes et à tous dans cette salle. L'élément qui réunit tous les gens derrière lui, c'est que Booba, c'est l'envie de la révolte, l'envie de tout foutre en l'air, l'envie d'aller décrocher ses rêves au forceps, l'envie d'aller prendre un scooter 50 cm cube sans avoir le permis et de l'enfoncer dans les entrailles du déterminisme social. Et surtout, Booba, c'est une déflagration rassurante. C'est celui qu'on écoute pour se donner de la force quand on va à une épreuve du bac alors qu'on a 60 points de retard. C'est celui qu'on a dans les oreilles quand on a se rendre à un entretien d'embauche perdu d'avance. C'est l'artiste qu'on veut faire résonner en nous quand on traverse une rue sombre en fin de soirée et qu'on veut se persuader qu'on peut se défendre tout seul alors qu'on croit que le Krav Maga est un plat en sauce libanais. Booba, c'est ce qu'on aimerait être parfois, mais qu'on ne peut pas pour des raisons évidentes de maman, ou qu'on ne doit pas être pour des raisons évidentes de... Il y a un moment donné, il faut laisser les mamans des gens tranquilles. Alors vendredi soir, à 20h, il s'est passé quelque chose d'important. Booba a mis un terme à sa carrière, une carrière à son image, volcanique, rugueuse, hors des codes, rêveuse et chauve. Mais surtout, une carrière qui a donné beaucoup d'espoir à des jeunes qui vivent dans des lieux où les caméras ne vont pas. Une carrière qui a ouvert les portes du rap au grand public pour permettre aux artistes que l'on connaît aujourd'hui de prospérer fièrement, et ça on aime. Une carrière qui a permis à un homme qui venait de tout en bas d'arriver tout en haut. Et quand je dis tout en haut, je parle du plafond de la Défense Arena. Alors Booba, merci beaucoup, merci pour cette carrière. Mais maintenant, s'il te plaît, laisse nos darons tranquilles.
Merci beaucoup Arthur,
merci à vous.
Beaucoup. Et c'est la fin de cette matinale. Merci à tous, on revient demain, même heure, même fréquence. D'ici là, rendez-vous sur Radio Campus Paris pour écouter tous nos podcasts. Très bonne soirée et à demain.